Journée d'automne, du golf avec un focus sur les joueurs français et du football avec la deuxième journée de Ligue 1. Nous commenterons ensuite les autres faits marquants de l'actualité sportive et comme d'habitude, nous terminerons avec les coups de cœur de nos invités. On va commencer par le rugby et cette tournée d'automne. Pierre Forest, les Bleus nous ont fait plaisir. Ils ont conclu cette tournée d'automne avec une belle victoire sur les Argentins, 37 à 23, 4 essais, une défense solide et disciplinée. C'était une belle copie pour terminer cette tournée d'automne.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que 3 matchs, 3 victoires, dont une très probante, le deuxième contre les All Blacks, malgré une domination de ces derniers, on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu, mais certes gagner d'un point, mais c'est toujours bon à prendre.
On va dire on a suffisamment perdu d'un point pour le prendre voilà, dans le bon sens voilà. Cette fois-ci.
Donc trois semaines, pratiquement un mois de rugby d'affrontement entre les équipes de l'hémisphère sud avec celles de l'hémisphère nord. Je crois que, mis à part peut-être l'équipe française, l'équipe de France, toutes les autres équipes de l'hémisphère nord ont quand même beaucoup souffert contre les équipes, notamment. Donc, à tout honneur, l'Afrique du Sud, championne du monde, vainqueur de la dernière championship, et qui a aussi là disputé trois matchs, trois victoires. Évidemment, avec l'équipe de France, les Blacks, qui a joué le plus, je crois qu'ils ont joué 4 matchs. Ils ont terminé ce week-end contre l'Italie. Une victoire arrachée un petit peu.
Ouais, 29-11.
C'était vraiment
dans la douleur.
Le dernier match de la tournée.
C'était presque un peu un jubilé aussi, hein, oui, pour Perinara, voilà, pour Sam Cane.
Pour Sam Cane, ils étaient plus ou moins déjà dans l'avion de retour après une longue tournée. Et évidemment, les Blacks, le seul match qu'ils perdent, c'est contre la France. Toujours d'un point. Hein. On a l'impression que l'équipe de France maintenant est abonnée soit aux défaites d'un point ou soit aux victoires d'un point. Voilà. Donc, et puis l'Australie qui se refait un petit peu une cerise. Hein. L'Australie, victoire probante évidemment contre l'Angleterre. Ça, on ne s'y attendait pas.
La semaine dernière, ouais. Par contre, battu ce week-end par les Écossais, 27-13.
Sinon, ils auraient fait aussi le grand chelem sur les 3 matchs. Mais avec le Joe Smith, hein, donc le nouvel entraîneur, qui est maintenant un petit peu, on voit à travers le jeu des Australiens, la patte du Néo-Zélandais, hein, qui a été et All Black et en même temps entraîneur des Blacks. On voit un petit peu la patte qui commence à bien prendre. Et puis, la grosse déception sur les équipes européennes, c'est quand même l'Angleterre. L'Angleterre qui a perdu ses trois matchs.
Trois matchs, ils ont sauvé l'honneur ce week-end contre le Japon à Twickenham, voilà, 59-14.
Voilà. Donc je pense qu'ils sont un peu au fond du sac.
Et c'était leur première victoire depuis le mois de juin.
Ouais. Et ça va poser des gros problèmes. On sait que dès la moindre défaite du 15 de la Rose, il y a tout qui est remis en cause. Donc là, avec 3 défaites contre, certes, les 3 équipes majeures de l'hémisphère sud, ça va poser un problème.
Et puis surtout que c'est une lente dégringolade quand même pour l'Angleterre. Ça fait quand même 2 ou 3 ans que le niveau est en baisse, que les victoires se font plus rares. Là, effectivement, un mauvais enchaînement.
Malgré tout, ils étaient demi-finalistes de la Coupe du Monde.
Oui,
mais
c'est vrai.
Mais si
vrai.
On se souvient, dans une partie de tableau très facilité.
Ça a été un petit peu l'arbre qui a caché la forêt, parce que demi-finaliste de Coupe du Monde est sombré depuis...
Et même déjà la demi-finale de la Coupe du Monde, ils étaient dans la partie de tableau la plus favorable par rapport à la moitié de tableau où il y avait notamment l'équipe de France, les All Blacks et l'Afrique du Sud qui étaient vraiment très 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 lourdes de ce côté-là.
Alors pour revenir un petit peu sur l'équipe de France, sur cette tournée d'automne, au-delà des 3 victoires, je crois que surtout ce qui a été intéressant à regarder, c'est les compositions d'équipe, hein, qui ont varié. C'est la confiance sur la paire de demi toulousaine. Hein,
c'est ça, la charnière Dupont-Ramos.
Évidemment, malheureusement, Jalibert en a fait les frais.
Et pour l'instant, pourrait-on dire.
Pour l'instant, alors que je crois que c'est un faux problème. Il me semble qu'il vaut mieux avoir 3 demi-d'ouverture qui se valent.
Trois très bons,
parce que là, on prépare quand même la Coupe du Monde dans 3 ans, hein, en 2027. Donc, il me semble que c'est plutôt un avantage qu'autre chose.
Ouais, le cas Jalibert pose question quand même, effectivement. Comment il a été traité le cas, je parle plus que de l'homme Jalibert, mais évidemment qu'on fait confiance à Galtier et qui sait ce qu'il fait. Je pense qu'il peut prendre, il prend le risque effectivement de se passer, comme tu dis, ce troisième demi d'ouverture.
Je pense qu'il faut
très
faire confiance à l'encadrement quand même,
oui.
Puisque autant Jalibert brille en club et c'est vrai que tout tourne autour de lui à l'UBB.
C'est vraiment le
mais autant les quelques apparitions qu'il a fait en équipe de France, il n'a pas pas tellement donné satisfaction. Donc, évidemment, quand on a une prédominance de l'esprit de l'équipe toulousaine, c'est vrai que Dupont-Ramos...
C'est cette petite polémique qui est un peu alimentée par le fait que Thomas Ramos a aussi dit qu'il préférait jouer à l'arrière. Donc, que son poste de prédilection, c'était l'arrière et qu'il aimerait pouvoir s'imposer à l'arrière.
Mais à l'arrière, c'est son poste de prédilection, mais il ne faut pas oublier qu'il a joué en 10, hein, déjà, quand il était dans les catégories plus jeunes. Comme Dupont, il a joué en 10 également.
N'oublions pas qu'Entamac n'est pas là pour l'instant. Voilà. Donc, il reprendra sa place et Ramos se rejouera très certainement à l'arrière.
C'est le titulaire et Entamac sur le poste.
Ça nous donne des possibilités en plus. C'est-à-dire que, voilà, comme on vient de le dire, Entamac va revenir, on a Jalibert, on a Ramos, on a quand même de quoi composer une charnière performante, quelle que soit la combinaison.
Abondance de biens, comme on dit, ne nuit jamais. Ou ne nuit pas. Donc, arrivera-t-on à garder tout son côté, qui a les blessures, les méformes, etc. Mais arrivera-t-on à garder ce petit groupe-là jusqu'au bout ? Pas oublier que Galtier a aussi changé un petit peu son fusil d'épaule, parce qu'il joue beaucoup, et on le voit dans les avants. La paire Méafou, qui est là aussi est une paire, la seconde ligne, la paire toulousaine Méafou, associée à Thibaut Flamand, est en train de prendre le dessus sur... évidemment, ils ne sont pas là plus ou moins en méforme comme blessés. Romain Taufi-Fenois, enfin tous les deuxièmes lignes droits, lourds et costauds et qui calent une mêlée, ça pose question. Donc il y a quand même une nouvelle jeunesse qui arrive là.
Et qui répond très bien aux défis internationaux, je trouve. Hein, au-delà des très bonnes performances en top 14, ils répondent immédiatement en équipe de France, sauf très rares exceptions. Ça, c'est quand même très intéressant.
Et les titulaires en puissance ne sont plus du tout protégés. On l'a vu dès le premier match quand il a sorti Olivan, même pas sur la feuille de match, qui revient comme remplaçant sur le deuxième match. Et au troisième match, là, contre l'Argentine, c'est le meilleur
homme du match.
Meilleur homme du match.
L'homme du match. 19 plaquages sur 20 tentés.
Ouais. Et là, il a sorti le capitaine de La Rochelle, Aldric, qui n'a pas du tout joué et qui n'a même pas joué en top 14 le lendemain. Donc, il y a vraiment un turnover. Je pense que ça remet un peu tout le monde en question, et c'est bien.
Ça évite aussi une accumulation de matchs qui peut être un peu fatale à un moment dans la saison.
Un petit point de difficulté ou un point faible de cette équipe-là, c'est la première ligne, et notamment les postes de piliers. Autant au talonnage, on a ce qu'il faut avec Peato, Mavoka.
Sans doute le meilleur du monde, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais moi je pense qu'il est aujourd'hui tout à fait.
Il est égal à lui-même, il ne fait pas plus d'éclat que ça, mais
il est extrêmement constant.
Il est très constant. Au pilier gauche, on espère le retour de Baye, parce que c'est le meilleur pilier gauche à gauche, comme on dit. Mais alors à droite, si Antonio, on voit qu'il n'y a pas.
Il commence à fatiguer aussi.
Oui, il a commencé un peu à vieillir. Et est-ce qu'il sera là pour la Coupe du Monde? Mais à droite,
il sera probablement pas là, puisqu'il avait quand même annoncé la fin de sa carrière internationale après
Romain Taufi-Fenois, qui revient après.
Il a été un peu rattrapé par la patrouille, si j'ose dire.
Mais à droite, c'est pilier droit et ça manque même dans le top 14. On n'a pas de vrai pilier droit sur lequel on peut compter pour la prochaine Coupe du Monde.
Voilà donc un axe d'amélioration pour cette équipe de France. Un petit dernier mot de rugby pour conclure cette page rugby. Les Irlandais, on n'en parle pas beaucoup, mais ils font aussi le job. Ils ont battu les Fidji ce week-end 52-17 à Dublin. Ils ont aussi fait une...
Oui, ils se sont fait surprendre le premier match contre la Nouvelle-Zélande. Ben ils ont perdu contre la Nouvelle-Zélande. Et après, ils se sont bien repris quand même. Ça restera l'Irlande. Et c'est juste pour anticiper pour le prochain tournoi Destination, donc début d'année prochaine.
Vous allez anticiper
ma question.
On va se
déplacer en Irlande. Voilà. On ira en Irlande et en Angleterre également.
Alors, est-ce que l'équipe de France est favorite de Destination qui arrive?
On verra. On verra parce que.
Les favorites, ça ne veut pas dire pour ça qu'elle
jouer en Irlande, c'est jamais. C'est jamais
une équipe. Aujourd'hui, je pense quand même.
On se dépassera trois fois là. Bon, il y a l'Angleterre qui va se retaper, l'Irlande. Et je ne sais plus le troisième déplacement.
Le crunch, reste le
pays
crunch.
Ouais, on reçoit le Pays de Galles et il me semble l'Italie, je crois, ou un truc comme ça. Mais c'est de bon augure.
Bon, eh bien,
tu
ne
te mouilles pas quand même.
On va noter ça et on en reparlera au mois de février.
Il y en a qui écoutent là, qui notent quand on dit des pronostics, donc il vaut mieux ne pas attendre.
Mais si on va passer à une petite balle blanche après ce ballon ovale, donc on va parler
de golf. Enfin, parlons d'un sport sérieux.
Donc le golf avec un petit tour d'horizon de l'ensemble des golfeurs français et françaises. On va commencer malheureusement par une mauvaise nouvelle. Paul Barjon qui perd son droit de jeu sur le PGA Tour pour l'année prochaine. Il n'a pas réussi à passer le cut là, sur le dernier tournoi de rattrapage qui avait lieu en Géorgie ce week-end.
Oui, malheureusement, on le sentait venir évidemment, puisque la saison a été assez longue. Et on le sentait venir parce que sur 27 de mémoire tournois joués, il a passé 5 fois le cut avec un abandon. Donc ça a été une saison horrible. Compliqué. Il a fait un top 10 quand même, mais ça a tout de suite très mal démarré. Et je pense qu'il n'a jamais trouvé le rythme, le pauvre. Et malheureusement, il lui fallait un exploit, puisqu'il lui fallait tout simplement gagner le dernier tournoi, ou en tous les cas, un des deux ou trois derniers tournois, avec une victoire, évidemment, puisqu'il aurait été exempté pendant 2 ans. Mais il fallait plus que de très bons résultats pour se qualifier, donc c'était peine perdue, malheureusement. Et malheureusement, pour lui, l'année se termine aussi mal, puisqu'il ne passe pas le cut, pardon, comme tu viens de le dire. Donc c'est terminé encore une fois au-delà du résultat final, puisqu'il termine, je crois, aux alentours de la 180e place. Les 125 premiers gardent leur droit de jeu sur le circuit. De la 125 à la 150e, ils ont un droit de jeu partiel. Et au-delà, ils redescendent d'une division. Donc c'est pas la première fois qu'il fait le yo-yo, malheureusement. Donc il va redescendre sur le Korn Ferry, la deuxième division. Une division qu'il connaît bien. Il a le niveau, évidemment. Tous ces joueurs-là, même si beaucoup ne réussissent pas à garder leur droit de jeu, ont ce qu'il faut dans leur bagage et en l'occurrence dans leur sac de golf. Maintenant, ça ne suffit pas. Voilà, il en faut un petit peu plus que ça. Il faut des fois un petit peu d'élan, il faut des fois un petit peu de réussite. Et puis, voilà. Alors, on ne sait pas malheureusement comment il est entouré là-bas, quelle équipe il a autour de lui. Donc ça, c'est un peu une inconnue. On ne sait pas effectivement pourquoi la saison s'est très mal passée. Il y a peut-être effectivement des problèmes particuliers. Voilà, donc nous, on est, tous les golfeurs calédoniens et sportifs calédoniens qui le connaissent sont un petit peu tristes, parce qu'il avait fait une remontée incroyable en gagnant la finale du Korn Ferry l'an dernier, donc ça présageait d'une belle saison à venir. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça s'est très mal engagé, et malheureusement, ça a été un calvaire tout au long de l'année. Donc il redescend. Voilà, souhaitons-lui le meilleur, de continuer à jouer. Il a 32 ans quand même, c'est pas un jeune. Même si dans le sport, et notamment dans le golf, on joue longtemps. Mais 32 ans, voilà, c'est un âge, voilà, il est mûr. Donc j'espère pour lui qu'il va très vite, si ce n'est pas l'année prochaine, dans 2 ans en tous les cas, avec des saisons un peu plus pleines, lui permettre de revenir, voilà, et puis de remonter, de rejoindre, puisque maintenant le contingent français augmente. Voilà, donc espérons qu'on en ait, on en aura 3 cette année, espérons qu'on en aura... On est les 4 et 5 dans les années à venir.
Allez, vous m'avez pris ma transition. Du coup, effectivement, donc on va parler de Rosner, de Pavon, de Pérez. Je vous laisse commencer dans l'ordre.
Mais dans l'ordre, c'est Mathieu Pavon, bien sûr, ouais. Puisque top 30 mondial, vainqueur de tournoi cette année. Il est 20, oui, top 30 aussi de l'année. Donc c'est une saison extraordinaire. Donc là, on attend évidemment avec impatience. On a vu quand même que les derniers tournois de l'année n'avaient pas été extraordinaires. Alors évidemment qu'on est exigeant. Hein,
difficile d'être très constant dans
et
ce sport sur
sûr,
une saison.
Bien sûr, c'est difficile d'être constant. Et on peut parler d'autres sportifs d'ailleurs, et j'espère qu'on en parlera, qui eux réussissent à être constants. Mais dans ce sport-là en particulier, effectivement, c'est très 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 difficile. Et seuls de très rares joueurs réussissent. Donc on a vu, en plus, avec les allers-retours du circuit américain au circuit européen, donc tout ça, c'est assez compliqué à gérer. C'est pas du tout problématique, il faut pas s'inquiéter. Justement, là, il pourra bénéficier jusqu'à janvier d'une longue pause et de repos et de pour lui permettre de se réentraîner correctement. Donc il n'y a aucun problème, il a montré qu'il avait le niveau. Je pense que ça roule. Soyons quand même attentifs à ce début d'année. On sait qu'un début de saison est quand même toujours important. Et ça lui évitera, même s'il est exempté pendant 2 ans, de se mettre dans le dur et de courir un petit peu après les résultats.
Et après la confiance.
Et on sait que malheureusement, dans le sport, et encore une fois, particulièrement dans ce sport-là, la confiance, c'est un élément clé, indispensable pour réussir.
Alors, on enchaîne avec Pérez ou avec Rosner ?
Avec Rosner, puisque c'est l'actualité, même si Pérez est devant au classement mondial, largement devant d'ailleurs. Puisqu'il est aux alentours de la 70-80e place mondiale, Pérez et Antoine Rosner est lui beaucoup plus loin. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, je crois qu'il est 140e à peu près mondial, et il vient de se qualifier de la manière la plus brillante possible lors du dernier tournoi du DP World Tour, c'est-à-dire le circuit européen. Il s'est qualifié en finissant 3e, en étant extrêmement solide. Il aurait pu jouer effectivement la gagne, donc là ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel c'était de finir dans les 5 premiers, il finit 3e en étant vraiment très très solide. On sentait évidemment que la pression était très 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 forte, Et c'est là où c'est une grosse performance qu'il a réalisée, que réalisent d'autres joueurs aussi, mais on parle de lui là, et on fait bien de parler de lui d'ailleurs, parce que c'est un très très bon joueur. La saison a été bonne, elle a été de mieux en mieux au fil du temps, et puis il termine quasiment en apothéose, quasiment parce que l'apothéose aurait été la victoire, mais se classer troisième, qui plus est derrière Rory McIlroy, en ayant partagé sa partie pendant le tournoi, c'est exceptionnel. Il est pour l'instant très très heureux d'y être, et il est sur son nuage. Il va falloir qu'il en redescende assez vite, parce qu'il faut s'organiser. Et puis même s'il connaît très bien la vie américaine, puisque lui aussi a fait ses études là-bas, donc il est comme un poisson dans l'eau, c'est certain, mais il faut s'organiser. C'est pas évident ce passage de l'Europe aux États-Unis, puisqu'il faut décider où on va habiter, dans quel contexte on va s'entraîner, comment les équipes vont suivre un petit peu. Donc c'est jamais simple. Et là aussi, le début de saison sera très important.
Allez, on enchaîne avec Victor Pérez, donc il vient de faire deuxième sur le BMW Australian PGA.
Voilà, Victor Pérez est aujourd'hui quand même une valeur sûre, hein, même s'il n'a pas le meilleur classement mondial des joueurs français. Mais c'est une valeur sûre qui sait voyager. Donc ce sera sa deuxième saison sur le PGA Tour à temps complet. Donc bon, il n'y a pas de souci a priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà, on aura, on aura trois très bons représentants. Comme je disais tout à l'heure, en attendant d'en avoir un petit peu plus. Et puis on ne sait pas ce que la saison à venir sur les différents tournois, et notamment sur les tournois majeurs, va nous réserver. Peut-être que des joueurs français vont se montrer un petit peu. On a aujourd'hui un nombre de joueurs très important sur la première division européenne. On est, je crois, on est parmi les mieux représentés, donc c'est très très intéressant. Maintenant, il faut un petit peu plus pour que... Voilà, on avait 6 joueurs, je crois, à la finale de la Race to Dubai, du dernier tournoi. Donc, on est bien. Voilà, maintenant, il faut se classer un petit peu mieux, et puis il faut viser la victoire.
Allez, on va terminer cette page golf. On ne peut pas terminer cette page golf sans parler du golf féminin, quand même. On a quand même une représentante qui est aussi très performante.
C'est normal. On aurait pu commencer par elle, mais elle est toute seule, effectivement. Elle n'est pas toute seule sur le circuit, notamment sur le circuit américain, mais à ce niveau-là. Tu as raison, elle est toute seule. Céline Boutier, vainqueur de tournoi majeur déjà, régulièrement vainqueur de tournoi sur le circuit américain, 7e mondial. Elle finit, je crois, dans le top peut-être 25 du circuit féminin américain. Donc c'est une valeur sûre. C'est une joueur très complète et qui va, encore une fois, je pense, l'année prochaine en gagner un. Et puis elle a une très belle image. Elle représente très bien le golf et le golf français et le golf féminin français. Donc là aussi, espérons que derrière ça va suivre, puisque et puis espérons qu'une Calédonienne, pourquoi pas, qui Ariane Klotz, pour ne pas la citer, qui sera sur le circuit féminin européen, sur les 10 European Tour, et ben pourquoi pas faire une très belle saison et puis la rejoindre sur le circuit américain.
Bon, et bien on aura encore plus d'attention que d'habitude sur la saison de golf 2025 avec tous ces joueurs français et françaises. Mais si on va enchaîner avec du football. Et Monaco et Marseille qui suivent le rythme imposé par le PSG, un PSG au petit trot face à Toulouse, 3-0 sans vraiment forcer. Toulouse a un peu facilité la tâche du PSG en se regroupant derrière et en subissant pendant quasiment 90 minutes.
Je t'avouerai qu'on ne sait plus trop quoi penser de ce championnat de France et de nos équipes françaises qui font, à l'exception de Paris, exceptionnellement une très très bonne saison
de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe même en général.
Voilà, en Coupe d'Europe en général. Donc ça c'est très très bien. Et en championnat, ben, on voit que les équipes ont du mal à être régulières. Bien sûr, Paris reste malgré tout au-dessus de l'eau. La preuve en est, c'est qu'ils ont maintenant une petite avance. Monaco et Marseille suivent, comme tu l'as dit, le mouvement. Monaco en jouant quand même un bon football. Donc, ils peuvent effectivement...
Surtout avec une équipe très jeune.
Très jeune, exactement, mais avec des joueurs qui sont vraiment en train d'exploser, là, exploser. Je pense à Kliouche. Je ne sais pas si je le prends
entre autres,
bien,
absolument,
mais parce qu'ils sont...
La question qu'on se pose toujours à Monaco, c'est combien de temps vont-ils rester, puisqu'on sait que Monaco a la fâcheuse habitude de les vendre très vite.
Eh oui, mais ils commencent maintenant aussi à savoir dégoter des jeunes talents. Hein. C'est une lapalissade, mais c'est vrai. Donc ils feront comme, je pense qu'ils feront maintenant comme quelques clubs portugais qui régulièrement sortent des jeunes joueurs et qui malheureusement régulièrement les perdent. Voilà, c'est comme ça. Alors Monaco aura toujours ce même problème qui n'est pas de garder ses joueurs mais qui est malheureusement le contexte monégasque avec un stade vide la plupart du temps et qui forcément, même s'ils arrivent à avoir d'excellents résultats, doit quand même leur coûter quelques points et peut-être quelques bons résultats. Mais on va voir ce que ces clubs au-delà du championnat de France On aura toujours effectivement plus ou moins les mêmes malgré tout. Je pense que Brest aura un petit peu de mal cette année en championnat, mais il nous offre une compétition européenne tellement riche, tellement fabuleuse, avec malgré tout, même avec les difficultés en championnat de France, un très très beau jeu.
Alors on a vu justement, on a vu un très très beau Monaco-Brest samedi matin.
Mais on a deux belles équipes qui jouent, qui font partie, avec Paris, malgré tout. Les trois équipes qui jouent le mieux au ballon, puisqu'on voit quand même que Marseille, même s'il gagne, et notamment gagne beaucoup à l'extérieur, ont un fond de jeu quand même qui est encore limité. Et je suis supporter de l'OM, donc ça ne me coûte pas de le dire. Voilà. Et donc, ça va être difficile d'aller quand même beaucoup plus loin, même si je souhaite le meilleur. Mais pour Marseille, ça va être compliqué. Le fond de jeu n'est pas là.
Avant de passer au programme de la Coupe d'Europe de cette semaine, on va quand même s'attarder un petit peu pour une fois sur ce qui se passe en bas du classement avec pas mal de mouvements sur cette journée. Bon, à part Montpellier qui malheureusement est scotché à cette 18e place et qui semble la saison va être a priori très très longue, une défaite contre Saint-Etienne 1-0 ce week-end. Saint-Etienne donc qui remonte de quelques places. Le Havre qui gagne aussi à Nantes avec des incidents en fin de match, mais qui remonte aussi de quelques places à la 14e place. Alors c'est très serré en nombre de points, puisque entre le 17e à 10 points et le 12e qui est Brest, enfin même le 11e en l'occurrence Strasbourg, qui est 11e, donc à 13 points. Donc il n'y a que 3 points entre la 11e et la 17e place. Mais on voit que quand même, il y a Rennes qui aussi s'enfonce un petit peu inexorablement, malgré l'arrivée de Sampaoli. Là, ils se sont inclinés 1-0
à Lille.
Il faut
attendre un peu pour Sampaoli, effectivement, parce que là, c'est trop récent. Et puis Rennes est quasiment dans les sables mouvants, c'est très compliqué. Mais la chance que peut-être vont avoir certains de ces clubs historiques dont tu as parlé, c'est justement le faible écart qu'il y a entre les 7-8 derniers. Donc ça, c'est une chance pour certains. Montpellier, je ne leur souhaite pas évidemment de descendre, mais ils sont partis effectivement pour souffrir beaucoup et probablement y passer cette année. Saint-Etienne, oui, va un petit peu mieux, mais encore une fois, 3 points, c'est strictement rien. J'ai peur, malheureusement, pour Nantes, qu'en fonction de leur contexte, ce soit là aussi difficile. J'ai peur qu'Antoine ait des difficultés.
Malgré tout, ils ont quand même l'habitude de se battre.
Mais à un moment donné, l'habitude...
Ça finit par casser.
C'est ça le problème.
Habituellement, c'est plutôt en fin de championnat qu'ils se battent pour éviter la relégation.
Ils se battent en fin de championnat parce que toute l'année a été difficile.
Alors que là, déjà...
Le peu d'écart de points fait aussi une petite série de 3 victoires et hop, on se retrouve tout de suite dans le ventre mou du classement.
Ça, c'est dans les rêves.
Il y en a forcément une dans les 8 qui va,
dans les 8 équipes,
qui va peut-être
Antoine
s'en sortir à faire une série.
Mais ça va être compliqué, surtout que je pense qu'en termes de joueurs, ils sont un petit peu justes.
Mais si on va enchaîner avec la Ligue des Champions qui arrive cette semaine, Pierre Forest, je vous dis les 4 matchs, c'est 4 affiches quand même pour se régaler. Un Bayern-PSG mercredi matin, un Barcelone-Brest également mercredi matin, Monaco-Benfica jeudi matin et Bologne-Lille jeudi matin. Donc vraiment du très très lourd et des très très belles affiches cette semaine.
Des déplacements surtout des équipes françaises. Donc si on commence
par le premier, Monaco qui reçoit.
Oui, Bayern-PSG, certes, comme l'a dit le collègue, ils ont déroulé ce week-end contre Toulouse, mais là contre le Bayern qui sort aussi d'un match de championnat, je crois qu'ils ont gagné avec un triplé de Harry Kane.
C'est ça.
Donc ça va, c'est quand même le Bayern à domicile, je ne sais pas, ça va être...
Sachant que le PSG est vraiment dans l'obligation de gagner.
Donc
4 points en 4 journées.
C'est un match à regarder à tout prix, pour voir ce que va faire le PSG. Brest, ils vont continuer peut-être sur leur lancée, parce qu'ils sont inconnus dans le giron européen, etc. Mais
ils sont un peu moins connus.
Ils sont moins bien en championnat, mais est-ce qu'ils arriveront toujours à jouer l'autre phase de la pièce qu'ils ont, je ne sais pas.
Voilà, le Barça qui s'est un petit peu sabordé ce week-end en Liga, en encaissant 2 buts en 3 minutes pour
Monaco,
pour
c'est peut-être l'équipe, à mon avis, qui sortirait un petit peu son épingle du jeu. Contre qui joue là ?
Contre Benfica.
Ça peut, je crois, cette équipe de Monégas par rapport aux jeux qu'ils produisent depuis le début de l'année, que ce soit en championnat ou en championnat de ligue.
Toujours difficile de se rendre au Portugal. Mais
c'est à Monaco,
C'est à Monaco. Hein. Donc c'est quand même mieux. Mais pour le coup, les cyclistes seront surpris d'avoir aussi peu de spectateurs.
Il y aura peut-être beaucoup de spectateurs portugais pour le coup.
Mais enfin, dans le sud de la France, peut-être beaucoup moins qu'en région parisienne.
Et puis un Bologne-Lille qui, même s'il semble un tout petit peu moins attrayant que les trois premiers, Bologne c'est quand même très solide.
Une équipe italienne, ils jouent chez elle.
Jamais facile de se dire. Alors ils ont Genesio, effectivement.
Ça compte, ça.
Qui fait des miracles depuis le début de la saison. Messieurs, on va dérouler une page de pub et on va se retrouver après pour les faits marquants de l'actualité de ce week-end.
RRB, la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Radio Rythme Bleu, on va retrouver tout de suite la deuxième partie d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Allez messieurs, cette semaine à la place du débat, nous allons commenter les faits marquants de l'actualité sportive et Dieu sait s'il y en a eu ce week-end. On en a retenu quelques-unes et notamment la première, le quatrième sacre de Max Verstappen en Formule 1.
À tout seigneur, tout honneur. Effectivement, il rejoint les légendes que sont Alain Prost et Sébastien Vettel, avec 4 titres de champion du monde, d'affilée qui plus est, donc c'est pas rien. C'est vrai qu'il a dominé le début de saison,
ce qui lui a permis
d'engranger beaucoup de points et de quasiment s'assurer d'un titre de champion du monde.
Il a été moins dominateur que les autres
années. Beaucoup moins dominateur. C'est vrai aussi que pour une fois, les écuries concurrentes que sont McLaren, Ferrari et malgré tout Mercedes ont fait des progrès, ce qui n'était pas le cas les dernières saisons. Et la preuve en est, c'est que le classement constructeur est très indécis à 2 courses de la fin. Donc ça, c'est formidable. Et c'est pas Red Bull qui mène, pour le coup.
Non, donc ils ne sont pas en position de force.
Mais pour ce qui est de Max Verstappen, je ne suis pas fan de ce garçon et de ce sportif. Mais on ne peut que s'incliner. 4 titres de champion du monde, il ne fait quasiment aucune erreur. Il est rapide, il a un ego surdimensionné. Je crois que c'est ce qui fait l'étoffe des très grands du sport. Donc voilà, chapeau à lui, bravo.
Une saison de Formule 1 qui se termine avec, jusqu'à maintenant, 6 pilotes différents sur le vainqueur sur les 6 derniers Grands Prix. Donc c'est peut-être annonciateur d'une saison 2025 très ouverte, avec des changements.
Exactement, Lewis Hamilton qui passe chez Ferrari, notamment. Donc ça va être passionnant. Et j'ai regardé la quasi-intégralité du Grand Prix. Et je voudrais tirer mon chapeau. Alors, ils n'ont pas besoin de moi, hein, Canal+, pour ça. Mais franchement, ce que fait Canal+, aujourd'hui, dans la présentation de la Formule 1 aujourd'hui, c'est juste exceptionnel.
Absolument.
Ça fait un moment que je n'avais pas regardé les Grands Prix en entier et avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que c'était un peu moins intéressant. Enfin, voilà,
On devrait avoir une redistribution des cartes pour la saison prochaine.
C'est probable.
Quand on le voit,
c'est probable, mais...
Il a géré la fin de saison.
Il faudra voir comment l'intersaison de Verstappen, justement, se passe dans son écurie.
C'est ça.
Puisqu'on sait que s'il a eu aussi des difficultés, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de tensions dans son écurie.
Avec Pérez notamment,
mais malgré tout, ça a été pour lui moins bien géré que prévu en interne. Donc, il va se passer des choses.
Et on espère que Ferrari va faire une belle saison.
Ferrari devrait pouvoir faire une belle saison. On sait qu'il y a des tensions aussi entre Gasly et Sainz.
Ouais.
Donc, l'arrivée d'Hamilton devrait permettre d'apaiser tout ça. Et
Ferrari
de papa Gasly, Leclerc, pardon.
Ferrari est toujours là, mais sans vraiment être là. Espérons pour eux que Hamilton redynamite tout ça et puis ils permettent d'avoir un très beau championnat. Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait des écuries en haut, il faut qu'il y ait des
plus de
compétiteurs que ça.
Il faut pas qu'il y ait,
c'est indispensable.
Il faut pas qu'il y ait un monopole qui...
Absolument, quel que soit celui qui gagnera à la fin.
Exactement. Allez, on enchaîne avec un sport qu'on met pas souvent à l'honneur dans cette émission, le tennis de table et les frères Lebrun qui, en remportant les finales du World Tennis Table Tour, l'équivalent du Masters en tennis à Fukuoka au Japon, sont devenus numéro 1 mondiaux de double.
Exceptionnel.
Pierre ?
C'est la continuité de ce qu'il a montré, enfin tous les deux ont montré aux Jeux Olympiques de Paris dernièrement, et puis ben, on va associer le tennis de table maintenant à la famille Lebrun, puisque je crois qu'ils savent toujours au tennis de table, le père, la maman, les enfants, voilà, donc non, c'est vraiment, c'est un vent d'air pur qui arrive un petit peu dans un vent de fraîcheur avec ces jeunes. Là,
18 et 21 ans, il faut le rappeler quand même.
Et puis leur attitude, ils sont maintenant des stars en Chine, hein, qui est le pays du ping.
Ils se sont inscrits sur une longue durée, là, à mon avis, pour rester en haut du classement.
Les premiers non-européens à remporter ce titre et à être numéro un mondial. Ouais. Quand même très, très fort.
Et c'était d'autant plus difficile quand tu dis qu'ils ont surfé sur le résultat des JO. Ben justement, c'était ce qui était aussi compliqué. C'était un petit peu de décompression après ces excellents résultats.
On parlait de constance tout à l'heure.
Exactement, et je crois que c'est un mot qui était très important pour nous.
Hein, il y en a un qui a passé le bac, là, juste après les JO.
C'est ça, oui. Félix, le jeune frère.
Il a eu le bac. Hein.
Il a eu le bac. on enchaîne avec une raquette un tout petit peu plus grande, et donc la Coupe Davis de tennis, où l'Italie l'a remportée, j'ai envie de dire, quasi facilement. Les trois tours qu'il y avait dès les huitièmes de finale, ils se sont imposés, à part le premier match où Lorenzo Musetti perd son simple et c'est Sinner qui, en bon numéro un mondial qu'il est, et ultra dominateur cette année, remet l'Italie dans le bon sens pour remporter le double avec Berrettini derrière. Ensuite, ils ont mis Berrettini et Sinner en simple et ils ont quasi plus perdu un set de la compétition.
Oui, mais le tennis n'est pas en cause dans cette histoire, mais moi, tu sais que je parle, je dis quand même ce que je pense, et cette Coupe Davis n'a strictement... Alors, pour le passionné de tennis, pour le lambda que je suis, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, c'est les Italiens...
Ça n'enlève rien au mérite de l'Italie.
Victoire, et surtout, ils ont le numéro un mondial incontestable aujourd'hui, qui me surprend de mois en mois, parce que quand je le regarde jouer, je vois ce physique, effectivement, qui n'est pas tout à fait le même que ses prédécesseurs, et qui, malgré les difficultés, on en avait parlé il y a quelque temps, de dopage, etc., bon, c'est un peu compliqué, ça l'empêche pas de continuer à jouer, à gagner, donc bravo. Voilà, et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette Coupe Davis plus tard? Je suis un peu... Voilà.
Elle va être réformée, on sait qu'elle va être réformée, c'est vraiment dans les tuyaux, mais malgré tout, voilà, ils ont été le chercher, c'est quand même deuxième année consécutive, c'est la troisième de leur histoire, donc ils vont pas bouder leur plaisir, mais voilà, ils ont été ultra dominateurs.
Ils ont un joueur très fort, le meilleur, et puis Berrettini qui, chaque fois on a besoin de lui... arrive et puis fait le job.
On n'en parle pas beaucoup, mais Berrettini a démarré l'année à la 160e place mondiale. Il est 35e aujourd'hui, donc c'est un vrai comeback aussi en ce qui le concerne quand son corps le laisse tranquille.
Beaucoup, voilà. Il y a 3, 4 ans, 5 ans sur les Italiens à ce niveau-là.
Voilà, mais c'est la deuxième nation la plus représentée dans le top 100 aujourd'hui, après la France. Bon, cette Coupe Davis, on ne peut pas ne pas parler de la fin de Rafael Nadal. Alors, il nous faudrait une émission entière pour parler de Rafa Nadal.
Tu sais que je t'avais réclamé du temps pour parler de lui.
Mais voilà, on est obligé de dire un petit mot. Messieurs, allez-y, Pierre.
C'est un truc... un grand champion qui se retire. C'est dommage de se retirer. Mais il y a une fin en tout. Je retiens simplement, puisque si on fait un lien avec le tennis calédonien... Cazot, qui était venu
Arthur Cazot. Ouais.
J'ai entendu son interview et il disait qu'il était peut-être pas du tout prévu pour prendre une raquette, etc. Et c'est en regardant jouer Nadal, donc
qui lui a donné envie.
Je fais le lien entre un jeune qui est en train de monter dans le giron français puis qui connaît la Calédonie puisqu'il est déjà venu une fois ou deux fois. Il a même gagné une fois le tournoi.
C'est ça, la dernière édition.
Voilà. Donc ça veut tout dire. Voilà.
Rafa, c'est juste un géant. Rafa, c'est l'équivalent, c'est l'égal des plus grands sportifs de l'histoire du sport depuis 100 ans, tout simplement. Et je le dis avec d'autant plus d'émotion que moi, je suis un fan absolu de Roger Federer. Et donc, quand on est Federer, eh ben, on a du mal à être Rafael Nadal. Et quand on les a vus se battre aussi souvent, quand on a vu malheureusement pour les supporters de Roger, Rafa prendre le dessus, ça nous a quand même fait énormément mal. Mais ce joueur, à l'époque, je suivais le basket américain, il y avait Magic Johnson et Michael Jordan, et moi j'étais Magic Johnson. Et puis quand Magic a arrêté, ben, à l'évidence que Michael était le plus grand. Et ben, alors j'ai compris avant que Rafa ne s'arrête qu'il était lui aussi peut-être pas le plus grand.
Ça peut faire l'objet d'une émission entière.
Voilà, on
aussi
peut en parler, très 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 longtemps, mais
selon
il avait,
qui supporte.
Au-delà de ses qualités, un modèle de combativité, d'abnégation. Et là, je crois qu'à ce niveau-là et dans ces, pour ces raisons-là, il n'a pas d'égal.
Alors, au-delà du sport, un dernier mot sur Rafael Nadal avant d'enchaîner. Au-delà du sport, quand on lui a posé la question lors de cette cérémonie, comment vous voulez qu'on se souvienne de vous ? Il a juste dit comme de quelqu'un de bien, comme d'une belle personne.
Voilà, mais ça dit tout. Et j'invite tout le monde à lire le petit message qu'avait, plus que le petit message, le message qu'avait envoyé justement
Roger Federer.
Pour son départ et aussi se souvenir du départ de Roger, même si c'est pas le plus important. Lui et Rafa assis tous les deux, Roger posant sa main sur la cuisse et pleurant tous les deux comme des gamins. Et ben voilà, le grand sport, c'est ça.
On va terminer ces faits marquants du week-end encore avec l'Italie, en faisant un petit clin d'œil à Riccardo Baroni qui nous écoute. L'Italie est en haut du tennis mondial puisqu'ils ont aussi gagné la Billie Jean King Cup, donc l'équivalent de la Coupe Davis chez les femmes, avec une Yasmine Paolini donc, qui s'est révélée cette année avec deux finales de Grand Chelem à Roland-Garros et à Wimbledon et qui a porté cette équipe d'Italie, alors en simple, mais avec Sara Errani en double jusqu'au bout de cette Billie Jean King Cup. Donc l'Italie est vainqueur des deux trophées par équipe.
Les supporters de football italien vont pouvoir regarder le tennis maintenant, ça va être beaucoup plus intéressant.
Alors pareil, hein, l'Italie est la deuxième nation la plus représentée dans le top 100 chez les femmes aussi. Donc,
il faut se pencher sur leur formation.
Il n'y a pas de hasard.
Bravo Riccardo.
Messieurs, on va terminer par vos coups de cœur de la semaine. Pierre, on va commencer par vous.
Je ne vais pas trop changer non plus, je vais rester dans le rugby. Hein. Donc Antoine Dupont, encore lui. Hein, puisqu'il vient d'être par l'instance World Sevens Awards, il vient d'être élu meilleur joueur setiste hein, du set, puisqu'il a gagné
meilleur joueur du monde,
ouais, avec l'équipe de France, ils ont gagné le World Series, hein, tu vois, et toujours avec la même équipe de France, ils ont gagné la médaille d'or olympique à Paris. Donc pour le World Series, sur 9 tournois, il n'en a disputé que 4. Donc ça montre tout l'étendue et la classe de ce garçon. À 15, c'est un Sud-Africain, le numéro 7, un flanqueur, Dutoit. Mais Dupont n'a pas pu concourir pour le meilleur joueur de 15, puisqu'il fallait participer à une compétition à 15 internationale. Donc comme il n'avait pas joué le tournoi des 6 nations, il a beau gagner évidemment le Brennus avec Toulouse et la Coupe d'Europe, mais c'est en club et voilà. Donc chapeau bas, parce que... On en a un comme ça tous les je ne sais pas combien d'années dans le rugby et vraiment il faut...
Bon, avec votre coup de cœur, ça fait un trophée de plus dans son escarcelle.
Ah oui, exactement.
Eric, votre coup de cœur ?
Alors avec ta permission, moi c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule.
Allez.
Voilà, un coup de gueule contre tous ces pseudo-supporters de football, puisque c'est principalement au football qu'on voit ça. On l'a vu à Nantes effectivement ce week-end, mais on le voit tellement souvent. Voilà, c'est indigne d'un sport aussi populaire que celui-là. C'est indigne tout simplement de l'être humain quand on voit ce qui se fait aujourd'hui dans les tribunes d'un stade de football, quand on voit que les enfants, les familles sont en danger, quand on voit qu'il n'y a plus aucune limite et que tout est fait. Nos amis anglais, justement, tiens, on parlait de crunch tout à l'heure, qui ont été quasiment les créateurs du hooliganisme, eh bien, on su gérer ça. Je ne comprends pas pourquoi nous, on n'arrive pas à gérer ça. Et au-delà de ce qu'on voit dans le championnat de France et en Europe, c'est aussi dans le football calédonien qu'il faut aussi penser à ça. Alors, évidemment, c'est sans commune mesure, bien sûr. Mais on sait qu'il y a des débordements avec les supporters. On sait qu'il y a des débordements avec l'encadrement de certains clubs. Donc ça, c'est... Voilà, il faut que ça s'arrête définitivement. C'est pas parce que je le dis que ça va s'arrêter, mais c'est vraiment un vœu pieux.
Ça pourra faire l'objet d'un de nos futurs débats, justement, aussi. puisque effectivement, à
que
l'époque...
Que tous les gamins ils jouent au rugby plutôt qu'au football.
À l'époque, Margaret Thatcher, puisque c'est de cette époque-là dont on parle, avait pris des mesures drastiques pour mettre fin à ce genre d'exactions. Messieurs, on va terminer cette émission qui est toujours trop courte. Merci à tous les deux d'avoir été présents et on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine sportive.
Bonne soirée à tous.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.